Donc je vais introduire la soirée sans avoir prémédité du discours. Comment introduire cette soirée? notre thème, c'est la République doit être nos cafés. C'est-à-dire, c'est travailler sur la question politique d'une façon originale, sur la question de la politique de soins, d'un soin qui serait un soin de beauté, quelque part. Je connais Francis depuis un petit moment maintenant. Je crois que tu étais là à la première soirée de Nos Cafés, Bernadette aussi.
Oui.
La toute première soirée où j'ai ouvert le lieu tout seul.
C'était quand?
C'était il y a 4 ans peut-être.
Oui.
C'était un moment un peu périlleux pour moi. Je me suis retrouvé dans mon cabinet. J'avoue que j'ai mis un an ou deux avant d'être à l'aise. on a eu l'idée de faire une soirée ensemble. En donnant la parole aux soignés, à celui qui expérimente le soin ou celui qui expérimente la maladie. C'est la première fois qu'on fait ça avec Nos Cafés. Ce qui interroge d'ailleurs, comment une structure de recherche sur le soin qui vise à faire se rencontrer soignants et soignés attend si longtemps pour donner la parole aux soignés. Mais ce soigné est peut-être un soignant aussi. Je te laisse la parole.
Oui, d'accord. Merci beaucoup. Merci, on va embarquer pour un voyage. Je suis un grand vagabond, un grand voyageur. Et donc cette aventure... n'hésitez pas à m'interrompre, parce qu'il y a des tas de choses avec des hypertextes. Vous appuyez et je peux développer, parce qu'il y a des tas de sujets que j'aurais aimé dire, on aura peut-être l'occasion de dire dans un autre ethnocafé. Croisière commence en 2015. Je suis retourné dans mon pays, le Lesotho. C'est un pays qui est au sein de l'Afrique du Sud. Je suis né dans un endroit qui s'appelle Koutin, la source. C'est du langage Kosa. J'étais né au Lesotho, mais dans un pays où il y a des Kosa, avec la langue des Criques, comme ça. Et le lieu où je suis né, ça s'appelle La Source. Il y a quand même, en dehors de moi, il y a un autre Kosa qui est célèbre, c'est Mandela, effectivement. Et pour moi, on rejoint un peu, je suis un animus politicus, n'est-ce pas Marie-Noël? On a 50 ans de militantisme, sans pour autant se présenter à des élections. Et surtout, là, il y a cette culture... qui m'a sans doute imprégné, donc on le verra tout le long de ce que je vais vous raconter, c'est l'Ubuntu, et on le vit ce soir ici, je suis parce que nous sommes. Et c'est la culture Ubuntu, donc ça, si vous voulez, on pourra le développer après, mais pour moi, c'est quelque chose de très important, et je le vis concrètement, puisqu'on le vit ce soir ensemble, donc c'est tout à fait pratique. Et il ne me reste plus que quelques jours à passer là, je prends une douche, et... curieusement, un petit ganglion sous la clavicule. Pas très grave, on me dit comme ça. Dans l'avion de retour, je dis quand même, je vais quand même prendre rendez-vous parce que dans 10 jours, je pars au Portugal où je vais travailler, où j'ai passé pas mal de temps au Portugal. Et je me dis peut-être que j'ai chopé un petit virus et tout, un ganglion, est-ce qu'il faut prendre des antibiotiques ou pas? Je me précipite et qu'il me prend tout de suite mon médecin généraliste. Et... il m'auscule toujours très très bien partout. Il fait un peu la tête quand même. Je vois que sur son visage, c'est pas un sourire épanoui. Il me dit, mais c'est pas terrible quand même. Je crois qu'il vaudrait mieux aller faire une radio, un scanner. Aussitôt dit, aussitôt fait, je prends mon petit cartable, je passe un scanner. Alors autant lui était chaleureux. J'arrive et puis je sors du scanner. Excusez-moi, c'était une dame, c'est pas très gentil. Ben monsieur, vous avez un cancer des poumons, métastase au cerveau et au foie. Ouf. Écoutez, je vous conseille d'aller voir un collègue, un pneumologue. Je donne un pneumologue quelque part. Bon. Alors en passant, là, c'était à la Croix-Rousse, j'avais envie d'abord de m'arrêter aux pompes funèbres là pour voir choisir mon cercueil parce que n'importe qui quand on vous apprend ça, si on connaît un petit peu de littérature, il n'y a pas besoin d'être il n'y a pas besoin de regarder sur Internet, métastase au cerveau et au foie, on se dit, ça allait vraiment mal barré. Mais quand même, je reviens le revoir, il me dit, non, il faut prendre rendez-vous d'urgence à l'hôpital de la Croix-Rousse, il y a un très très bon pneumologue là. Et puis il me dit, mais pas de risque, tu peux partir au Portugal, il n'y a pas de danger, tu n'es pas contagieux, et à ton âge, bon, c'est ennuyeux, mais tu ne vas pas mourir dans le mois qui vient, il y aura un peu plus de temps. Excusez-moi, si je caricature un peu, hein. Il m'en veut pas, mais si je vous donne le droit de réponse. Hein.
Pas de problème.
Oui, je veux pas. Et donc, et hop, je pars au Portugal. Ça se passe très bien, mais bon, mon esprit était déjà très très différent. Quand même, je reviens, bien sûr, je prends rendez-vous tout de suite à la Croix-Rouge, impeccable, on dit toujours que c'est compliqué, un petit mail, 2 jours après, rendez-vous avec le pneumologue. Le pneumologue m'a fait hospitaliser tout de suite. Et puis, bon, plein d'examens et tout, bon, il confirme que c'est grave et ça. Et il me dit, mais écoutez, là, je vous laisse une semaine de répit, mais il faut que vous reveniez dans 15 jours, vous hospitalisez plus longtemps, il faut qu'on fasse des examens. Et puis, je fais une drôle de tête. Alors, c'est là où il est très sympathique, il s'élève vers moi, il vient, il me touche l'épaule, il dit, je comprends que ce soit dur, tout ça, mais j'ai vu que vous faisiez une mauvaise tête. Je dis, oui, parce que dans 15 jours, je dois être à Ho Chi Minh, au Vietnam, pour inaugurer une formation qu'on avait mis en place, c'est le premier étage de la fusée, j'aimerais bien y aller, si tu me permets. Il me reprend comme ça, il me dit, mais vous savez, vous êtes en très bonne santé, mais après que vous serez passé dans mes mains, vous serez nettement moins brillant et tout ça. Donc surtout, partez au Vietnam, combien de temps ça dure? J'ai dit 10 jours, on m'a dit, à votre âge, le cancer, il ne va pas bouger, n'ayez aucun scrupule, surtout partez. Alors moi, je croyais qu'il allait me dire, monsieur, vous n'êtes pas sérieux, quoi. La santé, c'est avant tout, c'est pour ça que c'est intéressant. Vous rigolez avec cette histoire de Vietnam et tout, vous êtes gravement malade, il faut vraiment que je vous hospitalise, et je vous donne un rendez-vous, pas du tout l'inverse, au contraire, non, surtout, allez-y, c'est vraiment important que vous y alliez. Je suis parti, donc, au Vietnam, mais je vous avoue que j'étais dans un drôle d'état d'esprit, hein. Donc il y a un long vol, et je m'étais mis à côté du hublot, puis je vois défiler tout l'Himalaya, tout ça, les nuages, tout ça, puis je m'endors un peu, je me dis, mais je suis peut-être déjà au ciel, déjà, je vois l'Himalaya, le Mont Everest.
C'était pas l'enfer.
Ah non, je me voyais déjà au paradis, là, je m'étais un peu endormi dans l'avion, comme ça, puis je me réveille un peu, mais évidemment, vous comprenez ce que j'avais dans mon esprit à ce moment-là. Bon, ça s'est très très bien passé au Vietnam, un accueil. Alors là, j'ai joué le double jeu, parce que je dis à personne, quoi. Que j'étais malade, ça regardait que moi. Mais c'est vrai que tout, c'était intéressant parce que les couleurs, les odeurs, ça prenait une autre dimension pour moi, complètement folle, quoi. C'est une odeur, une couleur que j'aurais peut-être pas remarqué. J'avais une sorte d'hypersensibilité extraordinaire, quoi, comme si je m'étais, enfin, drogué, mais c'était un peu comme ça. Et puis, on revient. Ben, je reviens le dimanche, et puis le lundi, j'étais à l'hôpital de nouveau. Hop. Alors, je retrouve toute l'équipe de là. Et alors, beaucoup d'examens. Alors, je vous passe les détails. C'est pas très agréable quand on va gratter dans les poumons pour chercher des prélèvements et autres. Ça passe bien. Et puis, au bout d'une semaine, il me dit, voilà, le diagnostic, monsieur. Vous avez une mutation. Alors, je vous dirai pourquoi c'est important cette sorte de mutation, parce qu'après, comment j'utilise ce levier-là dans d'autres cas. Et puis, c'est le cancer de la femme asiatique. Vous avez... Alors, je me retourne dans la voiture, je dis, mais je vous promets, je n'ai pas couché avec une vietnamienne. Alors, il me dit, quand j'aurai du temps, je vous expliquerai un peu comment on attrape des maladies vénériennes. Ce n'est pas l'objet de ma consultation aujourd'hui. Il a beaucoup d'humour, ce pneumologue. Il m'a dit, non, mais ce n'est pas ça du tout. Mais il dit, vous avez de la chance, ce n'est pas un cancer à petites cellules. Donc, on va pouvoir faire des choses intéressantes tous les deux. L'aventure sera plus drôle avec un cancer non à petites cellules que si vous aviez l'autre. Vous n'avez jamais fumé. Ah non, j'ai jamais fumé. Ah, bon, il dit, c'est normal, donc c'est ça. Et puis, il me dit, ben voilà, vous avez cette fameuse mutation. Et on va essayer de faire un traitement un peu spécial qui existe. Alors, bon, je vous passe les termes, c'est IRISA. C'est un traitement un peu compliqué, mais ils me disent, au moins, on n'a pas besoin d'intervenir. Vous avez simplement à prendre une pilule par jour. Tout ça, ça va très bien. Et hop, je suis parti. Alors, il me dit, vous allez devenir adolescent. Alors, les petits boutons de l'acné. Alors, vous donnez des médicaments pour pas que vous ayez de l'acné, ça, ça pourrait nuire à votre charme. Et donc, je suis parti avec ça. Mais toujours, je suis toujours vraiment incorrigible. En octobre, novembre, enfin, novembre de la même année, je pars travailler à Beyrouth. Alors, j'avais eu une expérience un peu douloureuse à Beyrouth, puisqu'en 2006, j'ai failli mourir sous les bombes israéliennes. J'étais obligé de rester pendant 15 jours à regarder tomber les bombes. L'action ne tombait pas trop loin, mais bon, ça va. Elles m'ont loupé. Et là, je repars à Beyrouth pour... si, c'est un... Parce qu'après, un moment, je parlerai de la mort. C'est important, parce que c'est quelque chose qui apparaît. Donc, j'en plaisante, mais c'est vrai que j'ai eu plusieurs exemples d'expériences de mort. Donc, ça m'a beaucoup marqué, ça. Donc, mais là, j'étais pas tout à fait... Bon, ça se passait plutôt bien. Les étudiants étaient sympas. C'était un moment où il y avait du calme au Liban. Mais malheureusement, il y avait la grève des poubelles. Là, ben, c'est catastrophe parce qu'ils se battaient entre eux. Donc, tous les soirs, ils rassemblaient sur des endroits, des places, et ils brûlaient les ordures. Terrible. Et j'ai eu deux étudiantes qui ont été hospitalisées à cause de ça. Et puis, moi, je commençais à aller mal. Alors là, j'ai fait quelque chose de pas très sage, je ne vous le dirai pas. Hein. J'ai pris de la cortisone, parce qu'il y avait toujours avec moi de la cortisone. Donc, je me suis avalé pendant 3 jours un petit peu de cortisone. Ça me soulageait bien et tout. Je rentre à Lyon. Et là, j'étais mal, parce que ce que je me suis aperçu, c'est quand j'ai pris le bus de l'aéroport pour venir ici, il y avait une dame qui a dit « Monsieur, asseyez-vous, asseyez-vous ». Alors, je ne devais pas être très brillant à voir, parce que pour qu'elle me dise tout de suite dans le bus « Asseyez-vous, asseyez-vous », une dame en plus, j'étais gêné, m'a dit « Non, non, mais on voit que vous êtes fatigué, monsieur ». Ben, je dis « Bon, d'accord ». J'arrive chez moi, et puis dans la nuit, je me lève et poum, je tombe. Le matin, je tombe dans les pommes, ça va. Donc, pompier, hôpital de la Croix-Rousse. Alors là, ils ont déclenché le plan sec. Tout de suite, ils ont dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Tout ça. Et j'avais grossi un peu. Alors j'ai fait, alors si vous l'apprenez, vous pourrez demander à Jean, il vous l'expliquera un peu. J'ai fait un échappement suivi d'une tamponnade. C'est-à-dire que le cancer était reparti de manière violente. Et tous les canaux lymphatiques avaient été bouchés. Et entre autres, après l'interne que j'ai vu, il m'a dit « Vous avez de la chance, vous avez pris l'avion, moi je vous aurais interdit. » Le cœur était complètement comprimé par toute la lymphe qui avait... Alors tout de suite, d'urgence, on ponctionne, on enlève l'autre du cœur, 1,5 litre. Donc il devait être vraiment très très comprimé. Donc j'ai du bon cœur. Donc je pense que c'est ça. Après, ça a été les poumons et tout. Et là, le médecin m'a dit... Alors, moi, je ne me suis pas bien rendu compte. Hein. Là, au contraire, là, j'étais plus serein. Bon, je suis bien en bonne main, il s'occupe de moi. Mais il m'a dit, là, votre pronostic de vie était vraiment en danger, quoi. Vous auriez un cœur fatigué, c'était terminé, surtout dans l'avion. J'étais direct, quoi. Il y aurait eu moins de frais. On le jette par l'avion, c'est bon. Et donc, et là, ils disent non, mais ça va plus du tout, votre traitement s'est échappé, il y a un gros, gros problème. Donc, on va vous faire un traitement de choc. Donc, alors là, je suis resté presque 3 semaines à l'hôpital, vraiment, alors là, différentes. Des médicaments, des perfusions et tout pour arrêter le cancer qui était... Et alors, toujours des événements, je vous raconte juste une anecdote là, c'est au moment où il y a eu le Bataclan. Et ça parce que j'en parlerai par la suite, mais je vous le raconte maintenant parce que c'était à ce moment-là. Donc j'étais vraiment très mal et il y avait une aide-soignante, enfin une dame qui servait le service, mais on n'était pas très nombreux, l'hôpital n'était pas plein, on n'était que 3. Et je regardais, et c'était une dame qui était algérienne. Et elle a été vraiment très contente de passer la nuit avec moi, tout bien, tout honneur, surtout que c'était triste, mais elle était algérienne, elle était complètement traumatisée par ce que les gens faisaient au Bataclan. C'est moi qui lui ai un peu remonté le moral. Parce qu'elle était vraiment, elle se sentait comme si c'était elle qui faisait ça, à cause de ses origines et de ce qui se passait. Et c'est vrai que c'était dur, hein, les gens, parce que toute la nuit, on regardait les télés en continu, on voyait les blessés, enfin bon. Vous avez tous vécu ça. Et ça a été une relation, vous voyez, traitant et patient, où le patient peut aider un soignant. Elle était aide-soignante, mais c'est important. Elle restait tout le temps dans ma chambre, de temps en temps, à aller voir les autres. Mais l'hôpital était un service un peu spécial, c'était pas sûr. Mais si je reviendrai là-dessus après, les relations qui peuvent exister entre un patient et son soignant. Donc ça, c'est vraiment, c'était vraiment... Alors là, en plus, de nouveau, alors que là, j'ai pas eu trop peur. Alors c'est là où vous allez vous raconter une histoire par rapport à vous. La panique terrible, je perds la voix. Je perds la voix complètement. Et pour moi, vous vous en rendez compte, ne pas parler, si je peux plus écrire, ça m'est égal. Mais en plus parler, pour moi, c'est pire que la mort. C'est pire que la mort. Il vaut mieux mourir que de ne plus pouvoir parler. Alors ce qui s'est passé, donc tout de suite examen et tout, c'est le nerf récurrent gauche qui a été tué par l'échappement. Ou le tamponnage, je ne sais plus lequel des deux mots. Bref, plus de... Et puis vraiment, j'avais une voix éraillée tout à fait. Et alors, qui c'est qui m'a sauvé la vie? C'est l'orthophoniste. Vous voyez, extraordinaire. À la Croix-Rousse, il y a une dame qui est fantastique. Et vraiment, c'était à la fois une relation. Bon, on est amis maintenant, parce que bon, là, j'ai beaucoup travaillé avec elle. Mais pour moi, c'était vraiment très, très important. Et alors, mon rapport par rapport à la psychologie, si vous voulez, en hypertexte, on le fera après. Ça a été moins bien réussi. Mais alors, le travail, c'est ce que je dis actuellement souvent. Dans des grosses maladies, c'est pas tellement un psychologue qui travaille, c'est les gens qui sont à côté et qui font quelque chose, quoi. Ce travail psychologique que j'ai fait avec cet orthophoniste, ça a été pour moi fantastique et ça m'a sauvé la vie. Donc maintenant, bon, je peux vous parler, vous m'entendez, il faut que je fasse attention, pas faire des fausses routes, mais j'ai toujours plus de voix de gauche, hein. C'est fini, hein. Terminé. Jusqu'au jour, peut-être qu'ils arriveront à bricoler
c'est
et raconter.
C'est un comble pour toi.
C'est un comble pour moi, oui.
Oui, c'est difficile à entendre, hein. Hein, c'est difficile à entendre.
Oui, t'avais remarqué une dérive.
Non, moi aussi. Mais la droite compense, elle hein, est gauche.
Voilà. Je vois que. Tu vois, on fait de la politique quand même un peu. Donc c'était bien. Et puis, donc tout ça, j'ai continué tout de suite après à reprendre une vie assez active. Plus de grands voyages quand même. Là, ça vous avait donné trois fois, là, ça faisait quand même beaucoup. Et donc, je reste dans le coin. Et ce qui est très intéressant, ça, c'est après, c'est les conséquences de ce qu'on peut vivre au fur et à mesure de la chimiothérapie. Pour donner une idée, lundi, j'y vais, donc je n'ai pas abandonné ça. Je serai en chimiothérapie. Et je suis à la 90e chimiothérapie. J'espère, mon objectif, c'est d'être dans le Guinness Book of Records. C'est mon objectif. Donc, il faudra que je regarde un peu. S'il y a des gens qui font de la littérature, il faudrait qu'ils me disent quand est-ce que je peux me mettre. 90, c'est déjà pas mal. Hein, c'est assez surprenant. Mais alors, vraiment, ce qui s'est passé, tout le temps, c'est plein d'incidents. Alors, je vais vous en raconter quelques-uns quand même, parce que c'est quand même intéressant. Et toujours, alors là, vraiment, des fois... Quand j'écoute la radio, on parle de ce qui se passe dans les hôpitaux, les relations malades, tout ça. Je ne dois pas vivre dans le même pays que les reporters et autres, parce que la Croix-Rouge, une bienveillance, une assistance. Alors, je vous raconterai quelques anecdotes quand même pour le justifier, mais ce n'est pas de la théorie, quoi. C'est vraiment. Et puis, je trouve des gens disponibles et tout. Puis, quand on leur parle, ce n'est pas la grosse catastrophe, quoi. On a l'impression que l'hôpital est coulé et qu'il n'y a plus de généraliste. Moi, j'ai un généraliste que je peux voir et qu'il me reçoit. Bon, il ne m'a jamais envoyé balader. Jusqu'à présent, hein, ça pourra changer après ce soir. Et puis, à l'hôpital, toujours impeccable, quoi, les urgences, parfait. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'il y a des petits bobos qui peuvent devenir, et ça, c'est intéressant. Bon, la voix, ce n'est pas catastrophique. De nouveau, ils auraient pu dire, bah, écoute... Tu vas bien, tu peux plus parler, mais tu vis encore. Bon, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, des expériences qui sont vraiment très, très désagréables, où vraiment le bobo devient plus important que le cancer. Quoi. Alors, du moment, c'est le cancer qui domine, mais par moment... Alors, le cas le plus classique, c'est la diarrhée avec vomir. Hein. Là, on a envie de vomir. On dit, vomir, c'est le cas de dire. On a envie de mourir. Quoi. On dit, ben, je m'en fous, moi, de mourir, mais c'est terrible, terrible. De faire les différentes choses comme ça. Et puis dans le traitement aussi, c'est important parce que on a un tout petit peu, comme on voit beaucoup de gens. Alors, ce qui est juste dans la description quand même des gens qu'on voit, bon, médecin généraliste d'abord, après il y a le pneumologue, mais ce qui est intéressant, c'est tout l'aéropage d'assistants et tout. Et moi, j'en ai vu, j'en ai épuisé pas mal, hein, en 8 ans maintenant. Donc, ils changent tous les 6 mois. Mais c'est vraiment passionnant de rencontrer des nouveaux des internes qui prennent soin de vous, parce qu'ils étudient beaucoup les dossiers et tout ça. Alors, je préfère un peu m'attirer, mais c'est surtout les étudiants étrangers, hein, tunisiens, marocains, vraiment, ils se plongent dans le dossier avant de venir me consulter, m'ausculter et tout ça. Ils connaissent tout mon dossier. Puis chacun, ils ont un peu, toujours un peu dans le cas du cancer, des idées sur les causes. Alors c'est vrai qu'on a toujours cette question de pourquoi je fume pas, je bois un peu de whisky comme toi, mais rarement.
C'est un remède.
Bon, écoute, on dira pas qu'on a entendu ça ici chez le généraliste, hein, parce que ça, il aura des ennuis. Et c'est vraiment très très curieux de voir leur intérêt sur les causes. Alors tout de suite, il y a des gens qui ont dit oui, mais t'as fumé. Non, fumé, mauvaise case. Et puis, ce qui est très remarquable, c'est qu'à Croix-Rousse, ils m'ont quand même envoyé passer une journée complète à Lyon Sud. Bon, je suis chimiste, donc ils ont dit oui, ça y c'est tout vu, t'as manipulé les produits, tout ça. Non, 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 c'est pas ça, non, non, vous avez été très précautionneux, puis ça. Non, non, je crois pas. Donc, la conclusion du rapport, ben, j'ai passé toute une journée de nouveau, ils m'ont un peu disséqué. Hein. Ils m'ont dit non, non, c'est pas ça. Donc, alors, s'il y en a un qui était vraiment très sûr de lui, monsieur, c'est le krypton. C'est un cancer qui est typique du krypton. Vous avez dû vivre dans des terrains granitiques où il y a du krypton. C'est du krypton, c'est sûr. Et bon, j'ai dit ok, d'accord, pourquoi pas. Je ne me rappelle pas d'avoir goûté du krypton, mais est-ce qu'en Afrique, là où j'étais, elle m'a dit, mais regardez sur les cartes, vous les cherchez. Mais je ne suis pas un fanatique d'Internet. Hein. De temps en temps, je regarde, mais on dit un neuneu, quoi. Si c'était le krypton de Lesotho, peut-être, mais bon, peu importe. Ce que j'ai trouvé remarquable aussi, c'est mon oncologue qui, dès qu'il a un doute, il m'envoie voir des collègues. Alors, le plus dur pour moi, ça a été d'aller en euros. Là, j'ai demandé d'être accompagné parce que en 6 mois, quand même, le métastase qui faisait 6 mm, il faisait presque 1 cm. Il était là. Et puis, et donc j'étais inquiet parce que, bon, c'est comme perdre la voix, quoi. Perdre la tête, ça me disait pas trop, quoi. J'ai plus de tête, plus de voix, je vois pas ce que j'allais foutre encore. Que j'allais foutre ici. Il est vraiment très gentil. Il m'a dit non, non, écoutez, je peux opérer. Il dit, mais je suis pas un fanatique des opérations. C'est dans un endroit, là, c'est bien, je peux y aller bricoler, là, je pourrais l'enlever, ce machin. Mais il dit, touchons pas ça trop, trop. Et puis après, il a eu un autre. Alors, oui, quand même, pour vous terminer l'histoire du métastase au cerveau, il a disparu au bout d'un certain temps. Et alors, ce qui est drôle, c'est que très souvent, et ça aussi, je joue un peu. Bon, je suis un peu enseignant aussi, donc ça explique. Mais chaque fois que l'oncologue me reçoit, il y a toujours des internes ou des externes qui sont là. Et puis, il me dit. J'ai dit, ben voilà, écoutez, le métastase a disparu, qu'est-ce que vous avez comme explication? Il dit, monsieur, c'est évident, c'est mon médicament que je vous ai donné, c'est qu'il a fait ça. Puis il se penche vers moi, il dit, en fin de compte, ce médicament, si vous regardez, en fin de compte, il ne traverse pas la barrière encéphalique. Alors les étudiants, ils se marrent, ils disent, mais comment il se comporte, hein? Pourquoi il se permet de faire des blagues comme ça aux malades? C'est pas terrible, quoi. Mais il est vraiment. Eh bien, il sait, il dit, avec moi, il peut, quoi. Et c'est ça. Et il y avait un exercice aussi qui n'était pas très drôle, parce qu'à un moment, quand il y avait de la lymphe tout autour des poumons, donc il y avait une assistante et il y avait une étudiante là, et il dit, voyez, si je pousse un peu plus l'aiguille, je vais rentrer dans le poumon, puis ça va faire quelque chose, je ne sais plus comment ça s'appelle.
Un pneumothorax.
Alors il dit, mais regardez, touchez. Alors il est horrifié, mais comment vous osez dire ça? Il dit, non, mais monsieur Piton, il comprend, vous inquiétez pas, il forme des étudiants. Il est d'accord, mais je veux vous apprendre, il faut que vous appreniez. J'ai dit, ben oui, allez-y, ben, je suis un bon cobaye et tout. C'est un pneumothorax, c'est un peu ennuyeux quand ça se produit, ça, je crois. Donc, et c'est vrai qu'on a assez souvent, bon, c'est vrai qu'au bout de 8 ans, on se voit régulièrement, il a permis. Mais c'est, donc, on parle de. Je fais une aparté là, sur la relation patient-malade. L'autre fois, il discutait avec les étudiants, et puis il pose des questions, il discute. Alors l'étudiante était un peu choquée, elle lui dit, mais comment ça se fait que vous faites part de vos doutes? Parce qu'il a. parce que tout est temps, est-ce qu'on continue actuellement, je suis dans une phase, est-ce qu'on arrête le traitement ou pas, les avantages, les inconvénients. Il disait, ben oui, ouais, c'est pas terrible, les chimiothérapies, ça vous fait plein d'effets secondaires, tout ça. On pourrait arrêter, mais si ça redémarre, ça marchera pas. Il dit, moi, je serais un peu ennuyé si ça se produisait comme ça. Et puis, il y a une étudiante qui lui dit, mais comment ça se fait que vous ne dites pas des choses comme ça, parce qu'ils discutent, c'est bien, en plus ça ne gêne pas. Il dit, mais vous avez vu, le patient qu'on a eu hier, il a commencé à m'engueuler, il a dit, monsieur, vous ne savez pas, vous avez fait 10 ans d'études, et vous ne pouvez pas me donner ce que j'ai, tout ça, ben, vous n'avez qu'à aller ramasser les poubelles ou quelque chose comme ça. Il dit, mais avec ces gens-là, on ne peut pas discuter. Il dit à l'étudiante, c'est bien cet aspect de formation avec des étudiants, pour moi, c'est une expérience fabuleuse, parce que moi, j'interpelle les étudiants aussi. Et il n'y a pas très longtemps, je vois les étudiants, il a dit, mais vous êtes le seul patient que j'ai jamais eu qui ne m'ait pas posé une question. Alors, je dis, ben, posez-la moi, je vous dirai pourquoi. Il dit, vous êtes le seul qui ne m'ait pas dit, j'en ai pour combien de temps. Et que les cancéreux, tout de suite, ils arrivent, ils disent, j'en ai pour combien de temps. Et pourquoi vous ne me l'avez pas posé? Je dis, parce que vous n'aviez pas la réponse. Il dit, oui, voilà, vous avez gagné. Il dit, vous avez tout gagné. Il m'a dit, parce qu'avec votre diagnostic, maintenant, il peut, il y a 8 ans, alors aujourd'hui, je dis, mais c'est tout bon, maintenant, on peut y aller, quoi. Mais il dit, il y a 8 ans, j'aurais pas pu, j'aurais été très, très ennuyé de répondre à cette question. Et il dit, les gens ne supportent pas. Ils ne supportent pas qu'il parle. Il dit, vous avez ça, bon, allez, prends-moi, monsieur, boum. Terminé.
Organisez-vous.
Oui, c'est à peu près ça. Et bon, c'est vrai que c'était assez remarquable. Comme on va partir un peu quand même dans la poésie quand même un peu. C'est vrai qu'il y a des moments de très grande solitude. Alors c'est là où je reviens à mon hobby, c'est la voile, les croisières. Et c'est vrai que c'est peut-être quelque chose de très très sympathique, la grande solitude, même s'il y a des gens qui me soutiennent, je les garde là. Mais, et c'est la sensation que j'ai eue plusieurs fois quand je traversais des Baléares vers la France ou de l'autre côté sur le voilier. Il fait nuit noire et il y a un bon petit vent, le voilier défile, donc il n'y a pas de bruit, juste le bruit de sa côte. Et puis on a juste le feu de mât qui est là-haut, mais ce feu de mât, ça pourrait être une étoile. Et c'est vrai que j'ai passé des heures comme ça, parce que en général, c'est moi qui fais les nuits. On a vraiment l'impression de voyager dans l'espace, encore une fois, c'est absolument fantastique. Et c'est vrai que la solitude n'est pas aussi épouvantable que ça. Parce que dans des phases de maladie, je pense, il y a des moments de très grande solitude. Hein, de très, très grande solitude. Et c'est vrai que la voile, ça fait la même chose. Et puis je continue les métaphores sur la voile. Bon, il y a des coups, c'est terrible aussi. Hein, quand tu es tout seul sur ta coque de noix et puis que ça brasse dans tous les sens, c'est une aventure, hein, c'est une traversée. Il y a la mort, hein, on le sait aussi. Hein, quand j'étais loin de toutes les terres, si jamais j'avais pris une grosse vague ou une déferlante, ben c'était terminé, quoi, le bateau terminé. Mais j'ai jamais fait tout seul. Hein, il y a toujours des gens, mais j'ai responsable. Mais quand même, surtout le skipper, on a quand même dans l'aventure de la navigation, il y a toujours quand même cette idée de mort qui peut apparaître. Hein. Donc la mort et la solitude. C'est souvent pas lié. Hein. L'idée de mort, elle vient, la solitude, c'est le moment où c'est plus serein. Quoi. Parce que quand il y a des gros coups de tabac, ça, c'est vraiment le cas de dire, à ce moment-là, on a beaucoup d'adrénaline, et on brasse, mais on sait très bien qu'il faut être très très vigilant, parce que tout ce qui peut se passer après, ça peut être catastrophique. Hein. Oui, alors c'est vraiment c'est une image poétique là, que j'ai souvent vécue. Et là, je vis la poésie beaucoup en voilier. C'est vrai, des moments tout seul au milieu de l'océan ou de la mer, on navigue. Surtout la nuit, c'est vraiment impressionnant. Quoi. Et surtout que la nuit, on ne voit pas, quand il n'y a pas de la lune, bien sûr. Quand il y a la pleine lune, c'est un autre paysage. Mais là, on ne voit pas la différence entre la mer et le ciel. Quoi. C'est tout. C'est tout bleu,
noir.
Oui, tout noir, avec des petites étoiles, dont la mienne avec ma tête de mât.
Qui des étoiles qu'on ne voit plus maintenant en ville. Hein? Les étoiles qu'on ne voit plus en ville.
Ah oui, non, voilà, là, je les vois bien, là, il n'y a, oui. a pas de souci. Oui. Oui. Donc c'est vrai que c'est cette espèce de triptyque quoi, entre plaisir, inquiétude et angoisse, quoi, il peut y avoir. Et je l'ai un peu retrouvé dans la maladie, c'est curieux de retrouver ça. Alors est-ce que c'est parce que j'ai beaucoup éprouvé un bateau, mais Mais il y a des moments que il y a du plaisir, quoi, dans des effets secondaires dans la maladie. Il y a des moments où je vois quand ça va mieux, que ça s'apaise. Par exemple, quand j'ai retrouvé ma voix, que je pouvais enfin communiquer, parler, faire des conférences et faire beaucoup d'exercices, si vous voulez. On pourra en reparler en aparté, on ne veut pas ennuyer tout le monde, mais pour moi, ça a été vraiment une chose extraordinaire. Alors, après ce qui s'est passé donc en 8 ans, il y a quand même eu une avalanche de pathologies. Alors, j'en discute, est-ce que c'est le cancer? On est très marqué, nous, par la causalité. Il faut faire beaucoup de différences. Bon, je suis scientifique, mais d'éviter de faire des corrélations et de faire des causalités. C'est pas parce qu'il y a deux choses qui arrivent en même temps que c'est forcément qu'il y a un effet de causalité. Bon, ça, c'est mon dada de scientifique, par ailleurs. Alors, je vais quand même vous en raconter un ou deux, parce qu'ils quand même ils m'ont très marqué. Et quand ça a été fini, j'étais vraiment très, très bien. Le premier, c'est que... qui était un peu... Bon, d'abord, finalement, c'était l'échappement. Et puis, une nuit aussi, je me réveille, une douleur épouvantable qui rayonne partout dans le corps, là, tout ça. Bon, c'était un pompier, hôpital de la Croix-Rousse. J'arrive là-bas, il me dit, ah, mais monsieur, non, vous inquiétez pas, c'est pas un problème cardiaque. Vous avez un gros calcul dans la vésicule. On va vous opérer. Tout de suite, bloc opératoire. Le chirurgien arrive, il dit, non, on ne peut pas vous opérer, monsieur. Vous faites une tachycardie en plus. Alors là, voilà, ça c'est l'angoisse. Hein. Votre cœur, il bat à 140. Moi, si on vous opère, qu'on fait une anesthésie, dehors, après c'est fini. Alors ils appellent vite un cardiologue et autres. Ils disent, non, mais c'est pas possible, il faut absolument qu'on fasse quelque chose et tout. Alors ils m'ont dit, mais c'est pas grave, on va vous arrêter le cœur. On va faire un reset comme le computer, CTRL, ALT, SUP. On va faire ça avec vous. Et puis on verra si ça redémarre. Ah bon, c'est intéressant. C'est intéressant. Alors ils me mettent sur une. C'est, je pense que c'est ce qu'on utilise quand on fait des électrocutions. Ils me mettent sur une table, il y a du fil de fer partout attaché. Autour de moi, il y avait 12 personnes. Alors j'ai un peu discuté parce que je suis très bavard. Il y avait un anesthésiste, 3 cardiologues et tout. Ils disent, on va faire une piqûre, et puis après, on verra. Et alors, pouf, ils arrêtent. Alors, bon, j'ai rien senti, anesthésie générale. Je me réveille. Ça m'a semblé immensément long, mais il paraît que ça n'a pas duré tant longtemps. Donc, ils m'envoient un gros choc électrique, et ils relancent le cœur. Et là, il est reparti à 60, 70, comme normal. Et une charmante infirmière qui était à côté de moi, qui me passait des machins. Ça va, monsieur? Oui. Et où ils sont passés tous les autres? Oh, ben ça marchait, ils sont partis. et donc, bon, je plaisante un peu avec elle, puisque je suis un peu cabotin, hein, quand vous ne sauriez pas. Donc, un peu cabotin. Et alors après, je leur dis, mais écoutez, ça tourne maintenant. Non, là, vous plaisantez, parce que nous, chaque fois que vous avez quelque chose, on ne peut pas vous faire un reset. Il faut que ça fasse une défibrillation, je crois, parce que c'était... Alors, de nouveau, table d'opération, on t'envoie quelque chose, et puis c'est là où j'ai appris des tas de choses, on apprend des tas de choses. En nous, il y a un rythme, je crois qu'il y a quelque chose comme 200 coups par minute, mais qu'après, il y a des courts-circuits, puis il y a des gens, à un moment, il y a un court-circuit dans le cœur, alors il faut les couper ça. Donc, le médecin qui m'a fait ça, bon, il m'a expliqué tout. En semi-anesthésie, on voit, mais alors, c'est amusant parce qu'on est tout seul sur une table. On ne voit rien du tout. Lui, il est sur son ordinateur en train de faire des jeux, là, un peu plus loin. Et puis, bon, il y a toujours une charmante infirmière, quand même. Si. toujours. Excusez-moi, qui c'est qui est infirmière, oui. J'ai pas eu d'infirmière, je ne sais pas pourquoi, mais bon. C'est comme ça, hein, c'est un fait de société.
Je regarde les mains aussi. Hein.
Peut-être. Mais non, mais je n'en ai pas vu. Non, mais c'est vrai que donc, toute. J'ai jamais vu un seul infirmier.
Est-ce que vous auriez dit qu'il est charmant?
Oui. Ah oui, ça ne me gêne pas. Hein. Vous pouvez témoigner que oui. Non, un peu charmant. Donc après, ils m'ont fait cette opération. Mais vous voyez, c'est une autre anecdote comme ça qui est. On a encore 2 minutes, ouais. Je vous en raconter une autre qui est assez impressionnante. Donc je vais faire un scanner normal comme ça. Et je rentre chez moi et mon téléphone sonne, portable, revenez d'urgence à l'hôpital. Alors je dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Alors quand même, là, j'ai un peu désobéi, je dis, je vais quand même passer chez moi, prendre une brosse à dents et un petit machin, je retourne à l'hôpital. Ben monsieur, vous allez faire une péritonite. Il faut vous opérer d'urgence, on a vu sur le scanner que votre appendicite est très gonflé, tout ça. Et alors l'oncologue, il est là, non, il dit, bon, j'appelle. Alors il décroche son téléphone, il appelle tous ses copains. Non, non, moi je peux pas, non, moi je peux pas. Il est tombé sur un charmant italien. Qui dit non, mais moi je pars à midi. Il dit, non, Pietro, je ne me rappelle plus de son nom. Absolument, tu le prends parce que c'est un bon patient à moi, je ne veux pas qu'il claque. Il dit ça comme ça, devant moi, et tu le prends. Il dit, bon, d'accord, je resterai jusqu'à 2 heures. Mais l'italien, il lui dit, mais de toute façon, moi, je ne peux pas le prendre, je n'ai pas de chambre. Il dit, tu t'en occupes pas, tu l'opères. Moi, je trouverai bien une chambre dans cet hôpital. Bigre, il y a bien un lit pour ce monsieur. Moi, je tiens, hop, il m'arrive pour m'opérer. Puis l'anesthésiste, il dit, vous avez mangé à midi, là? Ah, oui, j'ai mangé. Ah, ben non, on ne peut pas opérer, il va vomir, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce que vous avez mangé? Alors, bon, heureusement, je n'ai pas mangé un cassoulet et tout, j'ai mon petite salade. Autre, il dit, bon, il regarde, il dit, on vous prévient, vous allez sans doute vomir. D'entrée, vous allez vomir. Mais bon, tant pis, on prend le risque, mais vous pouvez vous étouffer en vomissant. Mais alors, est-ce que vous signez? Alors, je dis, bah, oui. Alors, heureusement, il m'a opéré. J'ai évité la péritonite parce qu'après. Alors, c'est tout en célioscopie, hein. Donc, j'ai eu pas mal d'opérations, mais c'est miraculeux, la célioscopie. Et 2-3 jours après, j'étais. Et puis, ils me disent, bon, vous pouvez partir, là, au bout de 3 jours, si vous avez. Alors, je vais pour faire les sorties. Et puis, c'est là où on voit comme les initiatives personnelles sont formidables. Je tombe sur la dame en bas. Elle me dit, mais vous n'êtes jamais rentré à l'hôpital, vous? Comment ça se fait que vous êtes là? Alors elle me dit, mais c'est pas possible. Comment ça se fait? Vous devez passer par les urgences, voir, toute la procédure. J'ai dit, mais écoutez, il faut aller chercher un chef, et puis je vais m'expliquer. On dit, oh, les chefs, on les laisse là où ils sont. Moi, je vais faire toute la marche. Vous voyez comme quoi les ordinateurs, on peut les. On va faire tout comme si vous étiez rentré. Vous êtes rentré 4 jours, tout. Vous sortez aujourd'hui, tout. Vous avez le papier du médecin, oui, tout. C'est bon. Et puis, le plus beau, excusez-moi, je dis, ben, il faut que je paye quelque chose. Non, monsieur, pour vous, c'est tout gratuit. Vous êtes. Et vraiment très sympa, quoi. Mais comme quoi, les gens souvent qui prennent comme principe que c'est l'ordinateur qui est la faute, tout ça. Elle a tout fait à l'envers. Elle dit, mais je ne vous serais pas désennu, madame, je témoigne. Si on avait été chercher un chef, oui, on aurait eu plein d'ennuis. Mais c'est quelqu'un qui a... Mais c'est intéressant au niveau politique, tu vois, voir que dans le système, surtout qu'on entend tellement de choses contre les hôpitaux, elle a pris, mais c'est une dame, elle est bon, c'est pas une dame, elle est à la responsabilité limitée, quoi. Elle a été très, très sympa. On avait. Après, si vous restera après, je vous raconte des anecdotes un peu drôles. Mais alors après, si vous voulez, donc, une fois que j'étais embarqué dans cette histoire-là, j'ai complexifié l'aventure parce qu'il y a des. Je ne sais pas pourquoi, un jour, j'étais sur Internet et puis il y avait des choses qui concernaient les patients qui cherchaient. Tiens, je vais boire un petit coup de la vôtre. Et j'ai répondu à Internet là-dessus, disant, bah, écoutez, oui, je peux bien venir témoigner, ça m'intéresse. Je vis une expérience intéressante et j'aimerais la partager avec d'autres gens. Et là, je suis tombé dans un système qui est assez extraordinaire, qui s'appelle donc Clara, c'est le centre de tout ce qui est recherche en oncologie et autres. Et donc, ils m'ont fait dire, ils m'ont dit, mais nous, ça nous intéresse bien. C'est vrai que je tchatche un peu au ça, ils m'ont dit, parce que maintenant, de plus en plus, dans toutes les recherches en oncologie, il faut qu'il y ait des patients. Mais j'aime pas, on nous a mis la qualification patient-expert, je suis absolument pas expert. En revanche, je préfère beaucoup l'expérience patient. Et je trouve que c'est beaucoup plus joli, parce que je suis pas expert, il y a autant de choses, surtout, dans ce domaine-là, c'est pas du tout comme ça. Et donc maintenant, je suis embarqué dans pas mal de... Et puis, alors, comme j'enseigne à Grenoble, il y a aussi un département patient à Grenoble. Alors j'interviens, Et donc là, lundi, je vais refaire. Alors ça, c'est intéressant, c'est que je vais revenir dessus. C'est des masters qui sont internationaux, Erasmus, donc il faut faire la conférence en anglais. Bon, ça, avec mon passé, je n'ai pas trop de difficultés. Il faut expliquer. Alors parfois, c'est en visio, parfois, c'est en... Mais c'était très, très intéressant parce que je l'ai fait là au mois de septembre, c'était Archamps, c'est un lieu où ils réunissent tous ces étudiants. Il y a des étudiants du monde entier, hein. Alors, il y a des médecins, il y a des radiologues et tout. Et là, j'avais demandé d'assister à leur journée de formation. Et ils avaient travaillé toute la matinée sur des analyses de sang, des choses comme ça, tout ça. Et après, moi, je suis arrivé et bon, je les ai fait un tout petit peu rigoler. Je vois que je suis un peu clown aussi. J'arrive et puis je leur dis, ben voilà, je suis un mutant. Donc je leur donne, alors là je leur donne toute la référence de mutation que j'ai, hein. Donc je pouvais vous le donner mais c'est pas très drôle. Donc j'ai le GFR au niveau de l'exon 19, ça me dit quelque chose? Oui, très c'est poétique, oui. Mais heureusement j'ai pas la mutation T790. Alors je leur dis ça, mais voyez, je suis bien vivant, je suis là, je suis en chair en os, mais je suis bien un mutant, vous avez un mutant. Ça les a fait rigoler. Et alors, d'habitude, les étudiants, c'est parfois un peu compliqué. Là, ils ont tous fermé leurs ordinateurs, ils ont écouté. Et on a beaucoup parlé. Alors là, j'ai eu de la chance, c'est que j'avais un médecin qui les encadrait et qui chaque fois fait des commentaires. Ce n'était pas du tout prévu. Donc il leur a dit, ben, voyez, il a ce type de mutation, les conséquences, on a vu les images, tout ça, de ça, comment ça se fait. On cherche maintenant dans ces patients-là, est-ce que cette mutation, on le retrouve dans le sang? Moi, ils ne l'ont toujours pas retrouvé. Mais eux, ça les intéresserait, plutôt que d'aller gratter dans les poumons, de pouvoir récupérer dans les analyses de sang, de voir s'ils voient cette mutation. Jusqu'à ce jour, pour moi, ça n'a pas marché, ils ne l'ont pas trouvé. Ils m'ont piqué beaucoup de fois. Donc vous voyez, ça c'est un peu l'aventure patient. Donc, et lundi, je refais la même chose, mais là ce sera, comme il y a des gens qui sont au Portugal, il y en a même un Indien, j'ai vu, donc là ce sera en visioconférence. C'est plus difficile, hein, animer quelque chose, hein, Jean-Paul, hein, ouais. Parce qu'on fait des choses en visioconférence, c'est plus compliqué quand on peut faire le clown avec les gens et être devant eux, c'est à la fois plus agréable, le plaisir, tu vois, on retrouve son plaisir avec eux, mais bon, j'arrive à me débrouiller un petit peu avec ça. Et bien, bon, je continue actuellement, là, mon dernier épisode, c'était il y a 6 mois de ça, tout d'un coup, un peu alerte rouge, tout d'un coup, PET scan, d'urgence, qu'est-ce qui se passe, alors parce que j'avais l'aorte qui avait un petit peu gonflé et j'ai compris dans leurs yeux qu'ils étaient un peu inquiets, je savais pas trop et qu'est-ce qui se passait, alors ils pensaient qu'il y avait des métastases sur l'aorte et bon, on connaît quelqu'un malheureusement autour de nous qui a ce souci là et donc ils étaient vraiment très très inquiets, donc PET scan d'urgence et tout, en fin de compte c'est que la maladie de Horton. On en a un peu parlé ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est que la maladie d'Horton? Bon, je préférais que ce soit Jean qui vous explique que moi, mais c'est un problème de maladie, donc il faut que je prenne ça. Mais les conséquences sont beaucoup moins graves. Hein. Donc, ça veut dire cortisone. Alors, de nouveau, une anecdote qui était drôle, puisque moi, je vis de ces anecdotes qui sont drôles. Donc, on me dit, mais il faut absolument qu'on vous fasse une biopsie. Donc, on va vous prendre un bout d'artère dans le cerveau, là, pour que vous puissiez faire ça. Alors j'ai dit, ben, attendez, prendre une artère, le cerveau, après, c'est, oh non, vous inquiétez pas, le cerveau, il y en a tout plein. Et puis je tombe, bon, je fais un bloc opératoire, ça a duré une heure quand même. Donc ils m'ont retiré ici 2 cm d'artère, qu'ils ont analysé pour savoir un petit peu ce qui se passait. Et alors ce qui était drôle, c'est que la médecin, je commence à discuter avec elle, de nouveau j'étais sous anesthésie locale, et elle me dit, mais je vois qu'elle ne comprend pas bien le français. Je lui dis, mais vous venez d'où? Elle me dit, je viens d'Arabie Saoudite, je viens soigner les gens en France, me former. Alors je lui dis, mais écoutez, on va parler anglais, ça sera plus drôle. Et elle me dit, ah ben oui. Donc on l'a fait pendant une heure, on a parlé tout en anglais tout le temps. en anglais. Mais alors après, quand même, il y a l'infirmière qui a prospecté, elle dit, bon, tous les deux, vous ne me faites pas rigoler, moi je suis avec vous, là je comprends rien de ce que vous racontez, là. Vous m'avez complètement exclu. Alors bon, on est repassé, j'ai fait un peu le traducteur, mais vous voyez que c'est assez amusant, quoi. C'est des anecdotes qui sont marrantes, quoi. Et c'est une jeune femme très brillante, qui était d'Arabie Saoudite, qui venait se former. Mais j'ai eu beaucoup, et ça, bon, ça c'est mon aspect, effectivement, de voyageur et autres, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'excellents contacts avec des Tunisiens, des Marocains qui viennent, qu'on a comme internes. Et bon, j'ai l'impression qu'aussi, la responsable, il ne faut pas le dire, ça. Non mais c'est pas important ça. Souvent elle est bien contente de les envoyer parce que comme je discute beaucoup avec eux, et puis il y en a qui aiment bien aussi plutôt parler anglais, il y en a qui des étudiants qui sont internes et qui sont contents d'avoir un contact. Mais eux ils étudient les dossiers à fond. Hein. J'ai l'impression que parce qu'ils bah, vous rendez compte au bout de 8 ans le nombre de scanners, de PET scans, de biopsies qu'il y a eu et tout ça, il y a de quoi se régaler, quoi, le dossier. C'est vraiment assez fantastique. Mais ce qui est intéressant, là, de nouveau, c'est... Puis bon, je terminerai là-dessus, mais après, je répondrai à les questions que vous souhaitez. C'est un peu... là, je vais être prudent quand même. C'est toute cette relation qui peut exister et que le patient, il est responsable. Qu'il faut arrêter de dire qu'on est des pauvres gens, qu'on est maltraités, tout ça. Il y en a un peu marre, quoi. Je le vois, je l'ai vu, bon... avec l'oncologue, mais l'autre fois aussi, moi j'étais avec un monsieur, l'infirmière avait loupé. Le patient commence à l'engueuler. Il est vraiment, comment vous payez pour faire ça, vous n'êtes pas capable, vous avez loupé la perfusion. Bon, la pauvre femme, elle est partie, quoi, elle est partie. Bon, après, mais je l'ai engueulé, moi j'étais à côté de lui, puisque je partageais. Je dis, ben, on ne parle pas comme ça aux gens. Ouais, mais ces gens, ils sont formés, ils gagnent bien leur vie. C'est un autre, c'est un autre sujet, quoi. Mais il dit, mais ils doivent savoir faire, nous on est ici, c'est vraiment l'aspect consommateur qu'on retrouve partout, hein, je veux dire, à la poste ou partout, mais il y a quand même une grosse responsabilité, je pense, des gens. Alors, ils sont venus s'excuser, après lui s'est excusé, mais moi je l'ai engueulé, hein. Pour moi j'avais rien à craindre, j'ai dit, mais on parle pas comme ça à quelqu'un. Oui, mais je dis, mais elle n'a pas fait exprès. Ah, mais je suis sûr qu'elle n'a pas fait exprès. Il faut le remettre à sa place et lui dire ça, que ça peut arriver, quoi. Moi ça m'est arrivé qu'on loupe des perfs. Puis alors, sur les mains, là, c'est pas terrible, hein, je vous le dis. Hein. Si vous voulez éviter, moi je déteste ça. Hein. Les perfs sur les mains, mais j'en ai eu pas mal. Mais c'est vraiment incroyable, quoi. Et même l'oncologue, non, chez Jean, je n'ai jamais eu de. Je me suis dit Jean qui l'engueule ou quoi que ce soit, mais c'est vrai, à l'hôpital, moi je suis quand même surpris. Les gens, ils se comportent vraiment. C'est ce client, le client est roi, on a droit à tout, et le moindre petit détail, les gens sont, et parfois violents, ça je veux bien le croire, hein, que j'ai vu des gens qui étaient limite la violence. Alors c'est vrai qu'on dit, mais oui, mais ils sont angoissés et autres, c'est compliqué, mais c'est vrai qu'on est patient, acteur, et aussi passif. Par moments, il faut savoir écouter. Et ne pas, parce qu'il y a des discussions, les gens disent tout de suite, oui, non, non, mais nous, il faut un peu d'humilité, il nous arrive une tuile. Et moi, je crois que c'est l'aspect que je vais continuer de développer, là, puisque maintenant, je suis bien engagé avec le Clara, là, parce que dans, il y a pas mal de recherches, ils ont besoin de patients. Et puis, bon, c'est vrai qu'ils m'ont un peu repéré aussi pour donner des cours en anglais. Quand il faut parler cancer, patient, et puis bien parler l'anglais, dans l'entonnoir, il n'y en a pas beaucoup qui tombent à la fin, et puis qui sont un peu disponibles. Au bout de l'entonnoir, il n'y a plus grand monde. Merci.
Merci. Voilà. Merci. Merci.